tous et à toutes. C'est un privilège de donner une introduction au dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, en deux sessions d'environ 90 minutes. Mais on a besoin du temps pour passer à travers les 22 chapitres de ce livre. Pour commencer, je lis déjà à partir du chapitre 1er, verset 1er. Apocalypse 1, verset 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et il a signifié en l'envoyant par son ange à son esclave Jean, qui a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ de toutes les choses qu'il a vues. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept assemblées qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est, et qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, et qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui est part avec vous, à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Je fus en esprit dans la journée dominicale et j'ouïs derrière moi une grande voix comme d'une trompette disant « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept assemblées à Éphèse et à Smyrne et à Pergame et à Thyatire et à Sardes et à Philadelphie et à Laodicée. » Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis sept lampes d'or. Et au milieu des sept lampes, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à de l'airain brillant, comme embrasé dans une fournaise, et sa voix comme une voix de grandes eaux. Et il avait dans sa main droite sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage comme le soleil, quand il luit dans sa force. Et lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il mit sa droite sur moi, disant, « Ne crains point, moi je suis le premier et le dernier, et le vivant, et j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du Hadès. » Eh bien, nous apprenons par la première parole, par le premier mot du texte, que le dernier livre n'est pas un livre qui voile la vérité, mais c'est un livre qui dévoile la réalité et l'avenir. Apocalypse veut dire révélation. Donc ici, Dieu ne cache pas l'avenir, mais il l'explique. Et pourtant, les gens en général disent, Oui, ce dernier livre de la Bible n'est pas compréhensible. C'est comme un livre avec sept sceaux. Mais le livre n'est pas un livre de sept sceaux, c'est une révélation, c'est une apocalypse. Mais il faut mentionner le fait à qui est écrit ce livre. Nous avons lu au verset premier que ça a été donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver. Non pas aux hommes, aux humains, ou même pas aux croyants, mais aux esclaves. Juste une illustration. Il y a quelques années, j'étais encore au gymnase. Et voilà, un de mes collègues vient un jour me disant, « Tu vois, j'ai commencé à lire la Bible, mais je ne comprends rien du tout. » « Où est-ce que tu as lu ?»« Oui, j'ai lu l'Apocalypse. » J'ai dit, « Il ne faut pas lire l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse est écrit pour ceux qui obéissent Dieu. » Et alors, on ne comprend pas si on n'obéit pas. Tu devrais lire l'évangile de Jean, parce que là, à la fin du chapitre 20, Jean explique bien que ces choses ont été écrites afin que qu'on puisse comprendre et croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, l'évangile de Jean est écrit pour ceux qui ne connaissent pas encore le Fils de Dieu. Mais l'Apocalypse est écrit pour les esclaves, c'est-à-dire pour les croyants qui veulent vraiment suivre, obéir, servir le Seigneur. C'est tout simple. Et on a en plus une promesse, si on lit le livre au verset 3, « Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles. » Donc on a même une recette pour devenir bienheureux. Il faut lire le dernier livre de la Bible. Et d'ailleurs, pas seulement ceux qui lisent sont bienheureux, mais aussi ceux qui entendent. N'est-ce pas? Au premier siècle, parmi les premiers chrétiens, ce n'était pas normal que tout le monde était capable de lire, de savoir lire. Et voilà, l'Apocalypse explique que ce livre était aussi écrit pour les analphabètes. Ceux qui lisent, c'était important dans l'Église primitive, quand on lisait la parole, et voilà, ceux qui entendent, ce sont ceux qui ont accès par l'ouïe seulement. Mais vous voyez, lorsque l'an passé, j'ai traité ce sujet en Thaïlande, et là, bien sûr, c'est répandu que les gens ne savent pas lire, et j'ai expliqué qu'on peut comprendre le dernier livre, même si on est à l'alphabet. Mais il faut être un esclave de Jésus-Christ, quelqu'un qui obéit sa parole. Ensuite, nous avons lu que l'Apocalypse a été écrit, verset 4, aux sept assemblées qui sont en Asie. Alors là, j'ai dû expliquer aux Thaïlandais, Asie, ce terme ne veut pas dire ici Thaïlande, mais Asie, Asia, était à l'époque une province romaine en Turquie actuelle, sur une surface environ de la surface de la Suisse. Et voilà, là, il y avait ces sept églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, etc. Et Jean a écrit ce dernier livre de la Bible aux croyants en Turquie depuis l'île de Patmos, qui se trouve pas très éloignée, mais dans la Méditerranée, puisque c'était l'époque de l'empereur Domitien, vers 95 environ, il a été envoyé, exilé. C'était donc une suite de une conséquence de la persécution des chrétiens à l'époque. Et voilà, au jour dominical, le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection de Christ, Jean était là, isolé sur cette île. Il n'avait pas la possibilité pour se rassembler avec les enfants de Dieu, mais à ce moment-là, il reçoit la révélation de Jésus-Christ. Donc, pour remplacer son manque. Et voilà, et voit d'abord le Seigneur Jésus qui apparaît comme Fils de l'homme. Et le terme Fils de l'homme provient de Daniel 7, 14, où le prophète décrit la venue du Messie, la venue du Seigneur Jésus sur les nuages pour recevoir donc le royaume mondial, pour établir le millénium. Et voilà, lorsque Jean voit le Seigneur comme le Fils de l'homme, cela veut dire qu'il le voit comme le juge du monde, qui vient pour apporter le jugement. Et cela explique déjà le sens principal de ce livre. C'est un livre de jugement de Dieu sur le monde. Mais il voit le Seigneur avec une ceinture autour de la poitrine. Verset 13. Mais normalement, on met la ceinture un peu plus bas, n'est-ce pas? Je ne mets jamais autour de la poitrine. Il y avait un groupe d'hommes au 1er siècle et encore avant qui portaient les ceintures autour de la poitrine, les sacrificateurs. Toujours comme ça pour et bien serré pour augmenter la concentration dans le service de sainteté pour l'Éternel. Ici, vous voyez la maquette du souverain sacrificateur, très bien fait, mais petite erreur. La ceinture devrait être plus haut ici. Mais le texte dit une ceinture d'or. Souverain sacrificateur, ce n'était pas d'or. Oui, il y avait de l'or dedans. Mais aussi pourpre, rouge, bleu, écarlate et blanc. Lin blanc. Mais dans la littérature rabbinique, on appelait les vêtements du souverain sacrificateur les vêtements d'or, parce qu'il y avait beaucoup d'or dedans, pas seulement dans la ceinture, mais encore d'autres parties. C'est-à-dire, les vêtements d'or, ce sont les vêtements du souverain sacrificateur. Et ainsi, ici, la ceinture d'or, c'est effectivement le terme typique pour la ceinture du souverain sacrificateur. Et en plus, il est décrit comme ayant verset 13 à la fin, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds. Cette expression en grec qui est utilisée ici est utilisée dans la Septante, la traduction grecque qui était souvent citée par les apôtres dans le Nouveau Testament, est utilisée en Exode 28 pour la robe en pourpre bleu. Voyez. Donc déjà deux parties sont mentionnées des vêtements du souverain sacrificateur. En plus, on a bien lu, verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs. Ce que ça veut dire, les cheveux blancs, c'est clair, n'est-ce pas? Donc, ça représente le Seigneur comme le Fils éternel, dès l'éternité. Mais pourquoi la tête aussi, blanche comme la neige? Eh bien, le terme grec kephalē a plusieurs significations et aussi donc une couverture de la tête qui était bien sûr blanc pour le souverain sacrificateur. Alors, le Seigneur arrive ici comme le juge, le Fils de l'homme, et comme souverain sacrificateur qui est entré dans ce monde pour donner sa vie comme sacrifice, pour sauver un monde perdu. Et vous voyez, on le voit, le Seigneur qui se présente comme celui qui est mort et ressuscité, comme nous venons de le lire, donc le sauveur et le juge. Et voilà, cela nous explique la signification de ce livre. L'Apocalypse nous montre que Dieu a donné l'offre au monde du salut par Jésus-Christ et son sacrifice sur la croix du calvaire, mais un monde qui a rejeté ce don du salut est digne du jugement. En plus, il a vu le Seigneur au milieu de cette lampe d'or. Et voilà le terme, effectivement, désigne les ménorotes. Donc, ménorotes, c'est le pluriel de ménorah. La ménorah, c'est le chandelier d'or avec sept lampes. Donc, en fait, il voit le Seigneur au milieu de sept chandeliers, de sept lampes. Et À première vue, c'est peut-être un peu surprenant parce que au tabernacle, il y avait seulement une menorah, donc un chandelier, mais au temple de Salomon, Salomon avait ajouté au chandelier fait à l'époque de Moïse encore une dizaine. Alors, j'envoie le souverain sacrificateur, Christ, au milieu de sept chandeliers. Et nous voyons avec ça que chaque chandelier représente une église locale. Et voilà, le souverain sacrificateur devait tout le temps contrôler les menorotes, les chandeliers, si les lampes donnaient vraiment la lumière comme il faut, s'ils brûlaient comme il faut, mais lorsque ça ne brûlait pas, n'est-ce pas, ce n'est plus un témoignage, parce que c'est la seule source de lumière dans le lieu saint du temple, les chandeliers. Alors, le Seigneur, il est là pour contrôler si vraiment chaque église locale est un témoignage pour Dieu dans un monde de ténèbres. Et voilà le texte que nous avons lu, dit que le Seigneur avait des yeux comme des flammes de feu, qui réalise chaque déviation, la moindre déviation de la parole de Dieu. Et voilà, au verset 20, où nous avons parlé, ce Seigneur qui est le sauveur et le juge du monde, dit qu'il faut écrire ce qu'il a vu dans un livre. Et là, le Seigneur dit, Apocalypse 1, verset 20, 19, je veux dire, 19, écris donc les choses que tu as vues et les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après celles-ci. Nous avons ici le plan du livre en trois parties. Première partie, les choses que tu as vues, la vision du sauveur du monde qui est aussi le juge du monde pour ceux qui ont rejeté le salut. Deuxième partie, les choses qui sont. Et troisième partie, les choses qui doivent arriver après celles-ci. Et si on cite chapitre 4, verset 1er, nous réalisons que cette troisième partie commence ici. Après ces choses, je dis, et voici une porte ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais ouïe comme d'une trompette parlant avec moi, disant, monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celles-ci. Vous voyez, la formule correspond à cette troisième partie. Donc, par déduction, ce qui est entre partie 1, chapitre 1, et partie 2, à partir du chapitre 4, ce sont les chapitres 2 et 3. Les sept lettres envoyé aux sept églises. Et voilà, cette partie est appelée « les choses qui sont ». Et cela nous amène déjà au chapitre 2, parce que nous faisons, je le répète, seulement une introduction. Nous n'allons pas continuer à lire chaque verset de l'Apocalypse. Ça serait utile pour le faire après, pour soi-même, à la maison. Alors, en Apocalypse 2 et 3, nous voyons cette lettre écrite aux sept églises d'Asie. Et au chapitre 4, verset 1er, nous avons vu comme Jean a été enlevé au ciel. Et il est intéressant que, bien sûr, ces lettres ont une signification littérale pour la condition de ces sept églises à l'époque de Jean. Mais en plus, ces lettres ont des significations prophétiques. Parce que le livre d'Apocalypse est un livre prophétique. Et d'ailleurs, nous allons voir, tout ce qui est écrit à partir du chapitre 4 est encore dans l'avenir. N'est pas encore accompli. Mais nous avons lu au chapitre 1er que ces choses doivent arriver bientôt. Et bien sûr, parce que la prophétie des chapitres 2 et 3 ont vu tout de suite leur accomplissement. Et on peut voir dans ces sept lettres, cette période de l'histoire de l'Église des 2000 ans passés. dans la lettre à Éphèse, on voit l'Église non persécutée à la fin de l'époque des apôtres, qui avaient déjà abandonné le premier amour pour le Seigneur. Donc, l'amour où le Seigneur a vraiment la première place dans les cœurs. Extérieurement, c'était encore bien, mais ils ont abandonné ce premier amour. Mais dans la deuxième lettre, à Smyrne, qui a été persécutée à l'époque, on voit l'Église persécutée du premier au quatrième siècle, jusqu'à Constantin. Tout d'un coup, changer totalement la politique des Romains vis-à-vis des chrétiens. Alors, c'est une période terrible de persécution qui correspond à la lettre à Smyrne. Ensuite, on voit dans la troisième lettre que l'Église, après la soi-disant conversion de Constantin en 313, là, le christianisme est devenu une religion acceptée, légale, jusqu'alors persécutée, légale, et un peu plus tard, c'est devenu la religion officielle de l'Empire romain. Et dans cette lettre à Pergame, on voit exactement toute une série de parallèles avec cette période où le christianisme a tout d'un coup reçu une toute autre place dans ce monde. Ensuite, dans la lettre à Thyatire, on voit l'Église papale de Rome à partir de 440 après Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là? Eh bien, l'évêque de Rome était considéré comme un des plus grands évêques de la chrétienté, comme aussi l'évêque d'Alexandrie, de Jérusalem et autres, eh bien, à partir de 440, l'évêque Léon I a dit « Je suis l'évêque au-dessus de tous les évêques ». Avec ça, l'Église papale a été née. Ensuite, en Sardes, on voit la réformation à partir du 31 octobre 1517, nous fêtons le jubilé de 500 ans de la réforme, mais on voit aussi dans cette lettre, pas seulement le réveil, mais aussi son déclin, hélas. Ensuite, on voit dans la lettre à Philadelphie, le mouvement du réveil au 18e et 19e siècle, où les églises libres, indépendantes de l'État, ont été devenues importantes dans l'histoire de l'Église. Et finalement, on voit, en Laodicée, la décadence spirituelle des églises libres, aujourd'hui. Et d'ailleurs, Laodicée veut dire Laos, peuple, et Dicée veut dire justice. Justice du peuple. C'est-à-dire l'Église qui décide ce qu'il faut faire, ce qui est juste, selon le goût de la masse. N'est-ce pas? Comme dans le management, on se dit, oui, alors si je veux vendre mon produit, il faut que je dois m'orienter à la masse, l'homme moyen de la société. Eh bien, si l'homme moyen de la société veut venir visiter un culte chez nous, alors, il, très probablement, il vient en voiture. Qu'est-ce qu'il fait en roulant? Eh bien, il touche son radio, et sa radio. Et qu'est-ce qu'il écoute? Bien sûr, non pas des chorales de quatre voix, mais de la musique pop et rock. Alors, lorsqu'il arrive, on ne peut pas chanter des cantiques à quatre voix, donc il faut s'adapter à sa musique. En plus, qu'est-ce qu'il aimerait à partir d'une parole de sérénité? Eh bien, aussi quelques blagues. Donc, on ajoute aussi un peu quelques parties un peu rigolos. Et voilà, c'est notre époque qui s'oriente à Damas, là où il sait. Mais ensuite, chapitre 4, l'enlèvement de Jean. Et nous allons voir que son enlèvement représente l'enlèvement de l'Église, de tous les croyants de l'Église. Il faut encore ajouter que les Églises et leur témoignage est assimilé en Apocalypse 1:20, non pas seulement à 7 chandeliers d'or, mais aussi à 7 étoiles. Et voilà, c'est la tâche de chaque Église assemblée locale d'être un témoignage dans un monde de ténèbres pour donner la lumière céleste qui donne aussi de l'orientation à la société. Donc nous ne devons pas nous orienter aux coutumes et aux goûts de la société actuelle, mais nous devrions être des étoiles qui donnent de l'orientation pour ceux qui sont dans les ténèbres. Eh bien, on arrive déjà à Apocalypse 4. Je répète, 4 verset 1er. Après ces choses, je vis et voici une porte ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais ouïe comme d'une trompette parlant avec moi, disant, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celles-ci. Voilà, il est appelé pour aller au ciel. Et l'enlèvement de l'Église est donc l'espérance des croyants que le Seigneur Jésus va revenir, pas sur la terre, mais jusque dans l'air, pour arracher les croyants de cette terre, pour les amener dans la gloire céleste. On peut lire 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 51, et dans les deux passages, on lit aussi d'une trompette de Dieu qui va sonner à ce moment. Et voilà, ici, il entend une voix comme une trompette. Il est enlevé. Je lis verset 2. Sur le champ, je fus en esprit, et voici un trône était placé dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis était, à le voir, semblable à une pierre de jaspe et de sardius. Et autour du trône, un arc-en-ciel, à le voir, semblable à une émeraude. Et autour du trône, etc. Donc, il est enlevé au ciel. Mais en Hébreux 11, nous lisons d'une patrie céleste. En plus, on lit d'une ville céleste, la Jérusalem céleste. Et en Apocalypse 11, 19, nous allons voir, le texte parle du temple de Dieu dans le ciel. Où Jean est enlevé? Simplement dans la patrie, dans la cité céleste, au temple. Et nous allons tout de suite voir, il a été enlevé au temple céleste. Mais non pas dans les parvis, non pas dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint où il y avait le trône de Dieu. Et nous allons voir, le trône de Dieu, c'est l'arche de l'alliance dans le ciel. Ici, c'est simplement appelé le trône, mais vous voyez au chapitre 1, verset 19, je cite, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres. Vous voyez le ciel, le temple de Dieu dans le ciel, et l'arche de son alliance dans le ciel, le trône de Dieu. Donc il est enlevé, on peut dire, dans le cœur du temple, le lieu très saint. Et nous allons voir que dans ce livre de l'Apocalypse, nous avons tant d'explications concernant le temple céleste. Et nous allons voir beaucoup de détails qui sont mentionnés dans le texte. Non pas seulement le trône de Dieu, l'arche de l'Alliance, comme vous voyez ici, mais nous allons lire de l'autel, c'est-à-dire l'autel des holocaustes, qui était devant la maison, le temple proprement dit. Nous allons voir que l'Apocalypse parle de la mer, devant dans le parvis intérieur, n'est pas la mer dans le temple de Salomon, 1 roi 7. C'était cette cuve pour se laver comme prêtre, comme sacrificateur, les mains et les pieds. Il n'y a pas d'océan au ciel. Mais la mer, c'est ce bassin énorme. Ensuite, il est question dans son soir, en or, chapitre 8, et voilà les coupes pour recevoir le sang des sacrifices, et aussi mentionné, joue un gros, grand rôle, les coupes d'or, le chandelier est aussi mentionné parce que le chapitre 4 parle des sept feux. Flammes de feu qui brûlent devant le trône de Dieu. Ensuite, on lit des arcs au ciel. Et vous voyez les deux types de l'Ancien Testament. Kinor, dans la version d'Arby, c'est traduit par le luth. Dans d'autres traductions, par harpe. C'est égal. Il faut simplement savoir quel instrument est envisagé. Donc, Kinor, ça c'est le luth que David jouait. Et voilà, Nebel, normalement traduit par harpe. Ce sont deux instruments à cordes assez similaires. Ensuite, on lit des sept trompettes. Et là, il faut savoir qu'il s'agit des sept trompettes d'argent. Pourquoi ? Parce qu'au temple à Jérusalem, à l'époque du Seigneur, chaque jour, on sonnait sept fois les trompettes d'argent. En rapport avec l'Holocauste journalier du matin, 9h du matin, en printemps, et l'Holocauste du soir, mis sur l'autel des Holocaustes à 3h l'après-midi. Entre deux, on mettait tous les autres sacrifices sur l'autel, et voyez, ça correspond exactement à l'horaire de la croix. Le Seigneur a été cloué à la croix 9h du matin et il est mort à la croix 3h l'après-midi. Et en rapport avec ces deux sacrifices, qui marquent l'horaire du calvaire, eh bien là on sonnait sept fois les trompettes d'argent. Mais nous allons voir, dans l'Apocalypse, ces trompettes d'argent sont en rapport avec le jugement sur la terre. Oui, je dis, tout ce qui est en rapport avec le temple, et d'ailleurs aussi l'autel de l'encens en or, tout parle de la grâce de Dieu, du pardon, de la miséricorde de Dieu pour les pécheurs. Mais ici, tout devient une cause de jugement et de malédiction. Parce que l'Apocalypse nous enseigne, le temple céleste va laisser tomber le jugement de Dieu sur la terre, mais sur une terre qui a rejeté le sacrifice de Christ. Celui qui rejette le Seigneur comme le souverain sacrificateur, qui s'est donné soi-même, il s'est donné lui-même comme sacrifice, eh bien, il a choisi le Seigneur comme son juge. Alors, nous sommes ici dans le temple céleste, et Jean voit le trône de Dieu, c'est-à-dire l'arche de l'Alliance dans le ciel. Il voit Dieu qui trône entre les chérubins. Et voilà, il décrit la gloire de Dieu qui est comme un jaspe. C'est assez difficile, le sujet des pierres précieuses dans la Bible, parce que, pas tous, mais quelques termes ont changé au cours des siècles et des millénaires. Eh bien, le jaspe, on peut dire, dans le Nouveau Testament, désigne le diamant. C'est parce que nous appelons aujourd'hui jaspe, c'est une belle pierre, mais n'est pas lucide. Mais Apocalypse 21:10 nous explique que le jaspe est transparent, comme le cristal, et une pierre très précieuse, pas seulement précieuse, très précieuse, c'est le diamant. Qui est donc la pierre précieuse la plus dure, la matière la plus dure sur la terre qui existe, n'est-ce pas? On représente les différents matériaux de 1 à 10. Eh bien, le diamant, c'est 10. Pour expliquer que Dieu est le Tout-Puissant qui est au-dessus de tout. Et la créature, l'homme, doit prendre comme référence la justice de Dieu. Et jamais Dieu doit s'assimiler à la justice, en guillemets, de l'homme, comme un diamant. Mais on voit, il est aussi assimilé dans sa gloire à un sardius qui, voyez ici, il représente très bien le sang. Ce Dieu qui est au-dessus de tout et qui explique ce qui est justice et injustice, ce Dieu a donné la possibilité pour être justifié devant lui par le sang de Christ. Eh bien, on pourrait aussi parler sur la signification de l'émeraude, mais c'est seulement une introduction. Alors, il faut continuer, mais juste pour faire envie, il y a plus dedans. Et ensuite, il voit les quatre êtres vivants. Voilà un terme qui est utilisé en Ézéchiel pour des chérubins. Ce sont des anges excessivement forts et majestueux qui sont autour du trône de Dieu. N'est-ce pas? Déjà, sur l'Arche de l'Alliance, dans le tabernacle, il y avait deux chérubins. Mais Salomon, dans le temple de Salomon, il avait ajouté encore deux chérubins. Et ainsi, on avait quatre êtres animaux autour du trône de Dieu. Et Dieu était sur son trône au-dessus des chérubins. Et voilà le texte d'Apocalypse 4. J'ai dit, on ne peut pas tout lire. Mais le texte dit, un chérubin avait le visage d'un lion et l'autre d'un bœuf. Donc, non pas un taureau, mais un taureau qui travaille. Donc, il faut enlever quelque chose pour qu'il devienne un bœuf qui veut travailler. Eh bien, un autre comme un aigle et l'autre a un visage comme un homme. Et tout cela a une signification en rapport avec la grâce de Dieu. Le lion parle du roi, comme le Seigneur est représenté dans l'évangile de Matthieu, le roi pour Israël. Et en Marc, il est représenté comme le serviteur parfait, voilà, le bœuf qui travaille. Et en Luc, le Seigneur est représenté comme l'homme parfait. Et l'évangile de Luc est écrit par un médecin spécialiste de l'homme. Et Jean nous montre comme le Fils éternel de Dieu est venu d'auprès du Père et est entré dans ce monde pour revenir finalement dans la gloire céleste du Père. Voilà l'aigle. Mais ici dans l'Apocalypse, tous ces symboles des anges ont une signification avec le jugement. Le jugement de Dieu qui va maintenant suivre dans les chapitres qui vont venir, c'est un jugement d'une dignité royale, de majesté. Ensuite, le jugement de Dieu est un jugement de persévérance qui va aller jusqu'au bout. Dieu ne va pas arrêter au milieu, par exemple. Cela va être achevé jusqu'à la fin et avec une vitesse énorme. Nous allons voir que le jugement de l'Apocalypse est donc reparti spécialement sur 7 années, juste avant la venue du Seigneur comme juge du monde. Donc avec une vitesse comme l'air, et dans tout, on voit l'intelligence de Dieu et sa sagesse. Et c'est pour ça, un homme, Homo sapiens, l'être qui devrait avoir de la sagesse, n'est-ce pas? Mais ensuite, en Apocalypse 4, nous disons, autour du trône, il a vu 24 trônes. et dessus des anciens assis avec des couronnes d'or et des vêtements blancs de sacrificateurs. Qui sont ces 24 anciens? Eh bien, nous venons de chanter au début à celui qui nous aime et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Là, Jean s'adresse à l'Église, aux croyants de l'Église, qui sont tous les rois et les sacrificateurs. Eh bien, pourquoi 24? Parce que les sacrificateurs dans l'Ancien Testament étaient regroupés par David, le roi. 1 Chronique 24, en 24 groupes, départements. Et toujours à la tête d'un département de sacrificateurs, il y avait un ancien. Les départements avaient normalement la tâche de travailler au temple de sabbat jusqu'au sabbat, une semaine. Ensuite, la prochaine, la troisième, etc. Mais avec ça, on court seulement 24 semaines de l'année. C'est pour ça qu'ils devaient revenir, faire le service. Ainsi, on court 48 semaines. Il reste encore quelque chose? Ah oui, heureusement. Parce que pour la semaine de Pâques et de Pentecôte, la fête des semaines, Shavuot, et pour Sukkot, la fête des tabernacles en automne, c'était les fêtes où tous les Israélites du pays devaient se rendre au temple à Jérusalem. Et là, on avait besoin de tous les sacrificateurs. Alors, cela veut dire, lorsqu'on a vu à Jérusalem les 24 anciens, on savait qu'ils sont tous là. Pas seulement une partie. Donc, les 24 anciens nous expliquent, ont expliqué à Jean, lorsqu'il est arrivé au ciel, tout le peuple de Dieu, de l'Église, et là, présent, l'enlèvement a eu lieu. Et effectivement, le Seigneur donne des promesses que l'Église va partir avant les jugements. Nous allons encore le voir. Et ensuite, autour du trône, il voit comme un arc-en-ciel. Pourquoi? L'arc-en-ciel nous fait penser à la promesse de Dieu à Noé. Il ne va plus jamais détruire la terre par de l'eau. Et c'est pour ça, on voit ici, Dieu agit seulement selon les promesses. Lorsque Dieu a promis quelque chose, Dieu se tient toujours fidèle à sa parole. Donc, il ne va pas détruire la terre par le jugement d'eau, mais par le feu, etc. Comme nous allons voir. En plus, dans ce chapitre 4, Jean voit, comme j'ai dit, les sept feux devant le trône. Voilà le chandelier, l'original au temple. Il voit la mer comme du verre. Parfois, les gens... Mais, vous voyez, comme du verre, mais la mer de Salomon était en bronze, en cuir, n'est-ce pas? Et pourquoi comme du verre? N'est-ce pas? Quand on travaille très bien la bronze, on peut même utiliser la bronze pour faire des miroirs. Et autrefois d'ailleurs, c'était des femmes qui ont donné leur miroir à Moïse pour faire la cuve d'eau devant le tabernacle. Et mais, vous voyez, la mer au ciel est tellement parfaite qu'elle est là assimilée comme du verre. Ensuite, Jean voit Dieu sur son trône et réalise qui tient entre ses mains un livre avec sept sceaux. Un ange demande, vous voyez, nous sommes déjà au chapitre 5, ici vous avez toujours les références. Chapitre 5, un ange demande, qui est digne pour ouvrir ce livre? Personne n'est digne, ni au ciel, ni sur la terre. Et Jean commence à fortement pleurer. Tiens, on peut pleurer au ciel. Ça en apprend, pas ça. Mais, tout d'un coup, quelqu'un dit, il ne faut pas pleurer parce que le lion de la tribu de Judas, il a été vainqueur. Et Jean regarde, et il ne voit pas un lion, mais il voit un agneau au milieu du trône. Alors, nous apprenons que c'est la même personne, le lion de la tribu de Juda, le Messie, le roi, qui est issu de la tribu de Juda, et également l'agneau de Dieu. Et le texte dit un agneau avec sept cornes. Eh bien, le Seigneur à la croix était le lion qui a vaincu sur le problème du péché, des péchés et sur Satan. Mais le Seigneur était à la croix à la fois le lion comme aussi l'agneau, l'agneau de Dieu qui a porté nos péchés. Et il faut savoir que l'espèce typique des agneaux dans l'Ancien Testament, en Israël, étaient les agneaux dits agneaux de Jacob. C'est une espèce particulière qu'on a dans les Lèves, de nouveau, maintenant en Israël. Et c'est typique qu'il porte quatre cornes, ou même six cornes. Ici, vous avez un exemple avec quatre cornes. Est-ce qu'on le voit?
Oui.
Ça, c'est typique pour les mâles et pour les femelles. Donc, c'est très souvent qu'on peut les voir avec six cornes, mais non pas avec sept. Mais ici, il s'agit de l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, et le chiffre 7 représente la perfection du pouvoir. Eh bien, lui est digne pour ouvrir le livre des sept sceaux. Celui qui a donné sa vie en vue du salut du monde est digne pour être le juge. Parce que nous allons voir maintenant que le livre avec les sept sceaux est le livre des jugements de Dieu sur le monde. Et nous allons découvrir donc le temps entre l'enlèvement et le retour de Christ en gloire. Ici, vous voyez indiqué le mont des Oliviers, Zacharie 14. Le temps entre ces deux événements est décrit dans ce livre des sept sceaux. Vous voyez, nous avons le temps de l'Église jusqu'à l'enlèvement. Et l'époque de l'enlèvement jusqu'au retour en gloire de Christ pour établir le millénium, donc le royaume mondial de paix pendant 1000 ans, est divisé en deux parties. La première partie est appelée dans la Bible l'heure de l'épreuve. Et la deuxième partie, la grande tribulation. L'heure, non pas une heure, l'heure de l'épreuve. On a eu des heures d'épreuve depuis le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Et aussi dans notre vie, il y avait des heures d'épreuve ou de tentation, on peut aussi traduire, l'heure de l'épreuve ou de la tentation particulière, mais ici, il est question de l'heure de l'épreuve. C'est l'époque où l'Antichrist va venir sur la scène pour apporter donc la plus grande... Pour induire à l'erreur comme on n'a jamais vu un faux conducteur dans le passé. Et cette époque est pour ça appelée l'heure de l'épreuve. On a Apocalypse 3, verset 10, le Seigneur donne à l'Église une promesse. Là, il le dit à Philadelphie, parce que c'est en rapport avec le message particulier à cette église. Et je cite, « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Voilà une promesse que Dieu va nous garder de l'heure de l'épreuve. Quelqu'un dit, oui, bien sûr, Christ va garder l'Église pendant les jugements de l'épreuve, de la tentation. Non, le texte dit, ne dit pas, je te garderai de l'épreuve, mais il dit, je te garderai de l'heure de l'épreuve. Donc, afin qu'on n'entre pas dans cette période de l'épreuve. C'est une promesse qui est en accord avec la structure du livre Enlèvement de Jean, des 24 anciens au ciel. Les rois et sacrificateurs sont complets. Ce ne sont pas simplement ceux qui sont morts et sont avec Christ. Non, le peuple est complet, les 24, non pas 12 ou 13. Ensuite, le terme « la grande tribulation », on trouve en Matthieu 24, où le Seigneur explique la fin des jugements en disant « car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée. » Vous voyez, ces jours sont abrégés, nous allons voir, à 1260 jours. Dieu a limité cette période. Et si cette période dépasserait ces 3 ans et demi, eh bien, nulle chair n'eût été sauvée. Français, comment le nom? Ça veut dire aucun homme survivrait. Il n'est pas dit nulle âme serait sauvée, mais nulle chair. Donc, on aurait une autodestruction de l'humanité. Mais le Seigneur va venir pour arrêter cette destruction. Autodestruction de l'humanité. Eh bien, nous avons ces deux parties. Ensuite, nous allons encore voir que les 7 premiers sceaux se réaliseront après l'enlèvement, mais pendant l'heure de l'épreuve. Et le 7e sceau va ouvrir la grande tribulation. Et d'ailleurs, lors du 6e sceau, les hommes diront, verset 6, que maintenant est venu le jour du jugement de Dieu, le jour de la colère de l'agneau. Et le jour du Seigneur, le jour de la colère de Dieu, c'est toujours la grande tribulation, les derniers 3 ans et demi. Donc, il réalise maintenant c'est le moment où donc, le sommet des jugements vont arriver, la grande tribulation, le 7e sceau. En plus, il faut expliquer, dans l'Apocalypse, le texte parle de 7 ans de jugement avant la venue du Seigneur. Et cette période de 7 ans est divisée en 3 ans et demi et 3 ans et demi. Et ce qui est mentionné là, dans l'Apocalypse, correspond à la 70e semaine d'année de Daniel. N'est-ce pas? En Daniel 9, le prophète reçoit la prophétie que depuis le moment où sortira la parole pour rétablir Jérusalem, jusqu'au Messie comme prince, il y aura 7 et 62 semaines, c'est-à-dire 69 semaines d'année. Et nous savons exactement quand c'était l'accomplissement, la sortie de la parole pour rétablir Jérusalem. C'est-à-dire après la captivité babylonienne, le temps Néhémie 2, où Artaxerxès a donné à Néhémie la permission officielle pour rebâtir Jérusalem. Et nous savons, c'était exactement à l'an 445 avant Jésus-Christ. Et alors, 69 semaines jusqu'au Messie, le prince. Et le Seigneur est arrivé comme prince le jour des rameaux. Selon les évangiles, c'était donc printemps, 32 après Jésus-Christ. Et on peut exactement placer les 69 semaines d'année de Daniel entre ces deux événements. D'ailleurs, nous allons voir que dans l'Apocalypse, la 70e semaine est divisée en 3 ans et demi et 3 ans et demi. Et les 3 ans et demi sont toujours assimilés à 1260 jours. Eh bien, on peut calculer. divisé par 3,5, ce sont des années de 360 jours. Ce sont des années lunisolaires. Il y a une bonne raison pour cela, mais ce n'est pas notre sujet. Juste pour dire, on peut alors calculer 69 fois 7 fois 360 jours, et cela nous donne 173 880 jours. Et ça, on peut exactement placer parce que le Seigneur est arrivé exactement le 6 avril 32. Et voilà, 14 mars 445, début. Donc là, c'est le début. Ça correspond exactement. Eh bien, le texte en Daniel 9 dit « Après, le Messie sera tué. » 5 jours après, le Seigneur a été crucifié. Le texte dit « Après, un peuple va venir pour détruire Jérusalem et le temple. » Cela s'est accompli 70 après Jésus-Christ, comme une conséquence du rejet du Messie par son peuple. Mais le texte ne parle pas d'une 70e semaine de Daniel. Mais il dit, il y aura des jugements sur Jérusalem jusqu'à la fin. Et ensuite seulement, le texte de Daniel 9 commence à parler de la dernière semaine, Daniel. Vous voyez, il est donc placé tout à la fin. Vous voyez, les 69 semaines de Daniel jusqu'à la première venue du Messie. Et la 70e semaine juste avant la deuxième venue du Messie. Mais là, entre deux, on a un énorme laps de temps, oui. Un énorme laps de Dieu, où Dieu a réalisé l'Église, qui est un mystère dans le Saint-Testament. Et voyez, 58 jours après Dimanche des Rameaux, le Saint-Esprit est venu sur la terre, Pentecôte, et là, c'est la naissance de l'Église. Et lorsque l'enlèvement va avoir lieu, c'est l'envers de Pentecôte. Le Saint-Esprit et l'Église vont repartir. Et voilà, Dieu a mis l'Église, ce mystère, juste entre, dans cette parenthèse. Et ainsi on comprend aussi, l'Église ne va pas entrer dans les jugements. Parce que c'est une parenthèse. Vous voyez, là, il y avait 58 jours. Et entre enlèvement et la 70e semaine, seulement on peut assumer quelques temps et ensuite les 7 ans, le jugement. Eh bien, nous avons compris. Ensuite, entre enlèvement et retour de Christ, nous avons les 7 sceaux. Et vous allez voir, lorsque le Seigneur, l'agneau de Dieu, ouvre le premier sceau, un jugement vient. Deuxième sceau, un jugement vient. Et ça continue ainsi. Mais au 7e sceau, rien qui bouge. C'est curieux. Mais juste après, quelques versets après, on voit des anges qui se préparent avec les 7 trompettes d'argent pour sonner les trompettes. Et voilà, premier, jugement tombe. Deuxième, jugement tombe. Ainsi, on réalise le contenu du 7e sceau. Ce consiste en les 7 trompettes. Vous voyez? Et après chaque trompette qui est sonnée, un jugement tombe sur la terre. Mais lorsqu'on arrivera à la 7e trompette, rien ne bouge sur la terre. Curieux. Et plus tard, on va voir les anges au temple céleste qui prennent les coupes d'or et il les verse sur la terre. Et chaque fois, un jugement terrible tombe sur la terre. Ainsi, on comprend, la 7e trompette, le contenu de cette trompette consiste en les 7 coupes. Alors, cela nous amène à ce plan. Nous avons strictement ces 7 sceaux, mais le 7e sceau est composé de 7 trompettes et la 7e trompette est composée de 7 coupes. Et ensuite, le Seigneur vient. Donc c'est une stricte chronologie. Donc l'ordre temporel est strict. Mais, il y a des parenthèses entre deux qui coupent donc cette chronologie des événements. Et ces parenthèses sont très importantes parce qu'elles montrent l'arrière-plan du temps. La première parenthèse, avant le premier saut, c'est chapitre 4 et 5. Et là, on apprend l'Église est déjà au ciel. L'agneau de Dieu est digne pour apporter le jugement et va ouvrir le livre des sceaux. C'est une introduction pour comprendre finalement ce qui va se suivre. Et il y aura de nouveau une parenthèse entre le sixième et le septième sceau. C'est le chapitre 7 de l'Apocalypse, où on voit comme Dieu va garder un résidu d'Israël, les 144 000 d'Israël, et aussi un résidu de toutes les nations du monde qui va se tourner vers le Seigneur et qui va passer à travers la grande tribulation. Et là, cela est donc mis comme explication des deux groupes importants d'Israël et des nations qui vont passer par les jugements. Mais qu'il faut bien distinguer de l'Église, qui est déjà au ciel. Vous voyez ? Et ça continue devant la première trompette, une parenthèse, etc. Mais en tout, il y a sept parenthèses. Vous voyez ? Et toujours bien placées devant numéro 1, entre 6 et 7. Devant numéro 1, entre 6 et 7. Devant numéro 1, entre 6 et 7. Et là, encore, après 7, parce qu'il y avait toujours, donc, avant 7, avant 1. Vous voyez, c'est un plan littéraire, fantastique. Et j'ai à la maison un commentaire très intelligent, théologique, sur l'Apocalypse, qui explique les termes grecs et la grammaire, etc. Et là, j'ai lu, le livre de l'Apocalypse est chaotique dans sa structure. Comment ? La parole de Dieu, chaotique ? Mais, c'est pas possible ! Oui, ils disent, parce que il y a des jugements qui sont écrits, tout d'un coup, le texte parle du retour de Christ. Des jugements sur la terre. Tout d'un coup, le texte parle du retour de Christ, etc. C'est chaotique. Non, le chaos est dans la tête de ceux qui croient avoir compris la parole. Mais là, il y a la question, est-ce que ce sont des serviteurs ? Alors, si on attaque la parole de Dieu, on ne peut pas être un serviteur de Dieu. Si on attaque l'inspiration et la perfection de la parole, impossible. Eh bien, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas une question de l'intelligence. Je répète, aussi des analphabètes peuvent mieux comprendre la parole qu'eux. Eh bien, il faut dire, ces parenthèses expliquent l'arrière-plan, mais aussi parfois un retour en arrière, comme dans le film, par exemple un film documentaire. On a une chronologie dans le film, et tout d'un coup, on doit revenir dans le passé. Alors, on fait ce qu'on appelle flashback. Et parfois, dans le film, on doit anticiper l'avenir. Alors là, on fait un flash forward. Et là, dans le film, il y a des moyens, des techniques pour immédiatement rendre clair aux gens de quoi il s'agit. Eh bien, ici, nous avons la même chose. C'est pour ça, parfois, nous avons un retour en arrière, un flashback, comme au chapitre 12, où il est question de la naissance du Messie. Cette femme avec la couronne d'étoiles Israël qui donne naissance au Messie qui un jour va régner sur les nations. Et d'autre part, on a des anticipations où il est déjà question du retour de Christ. Et ça fait simplement partie des parenthèses. Et vous voyez, ce plan parfait, d'abord les sept Église, ensuite les sept sceaux, les sept trompettes, les sept coupes, les sept parenthèses. Et ces parenthèses bien placées dans la structure du livre. Ici, vous avez les endroits, les références des parenthèses 4 et 5, donc deux chapitres. Là, c'est seulement un chapitre. Vous voyez la troisième parenthèse, seulement quelques versets, et une très longue parenthèse, nous avons numéro 5, depuis chapitre 11, 15, jusqu'au chapitre 15, verset 4. Vous pouvez recevoir tous ces diapositives. Donc, on peut les donner gratuitement. Et toutes les images sont licenciées. Donc, c'est selon les droits d'auteur. Et on peut même réutiliser publiquement. C'est tout est correct. Il y a plus dans cette structure. Nous allons voir que les sept sont toujours regroupés en 4 et 3. Ça, c'est déjà le cas avec les sept lettres, 4 et 3. Et vous allez voir, les sept sceaux, numéro 1 à 4, est regroupé parce que là, il s'agit de chevaux qui arrivent. Et par ça, on peut très bien distinguer les sceaux 1 à 4. Premier sceau, un homme sur un cheval blond, avec une couronne. C'est qui? Il y a des commentaires qui disent, voilà, Jésus-Christ qui arrive.
Non,
ça ne va pas. Oui, non, ça ne va pas. Et pourquoi ils pensent ainsi? Parce que au chapitre 11, au chapitre 19, verset 11, le Seigneur vient du ciel sur un cheval blond. Et il est couronné. Ça, c'est le Seigneur. Mais ici, c'est quelqu'un qui fait semblant. Ça, c'est l'antichrist. Anti en grec, signifie contre. Donc, l'antichrist sera donc un séducteur, le plus grand séducteur du monde, de l'histoire mondiale. L'antichrist sera contre Christ. Lorsqu'il arrivera en Israël comme Messie, avec une influence mondiale, et particulièrement sur l'Europe, il va dire, je suis le sauveur promis. Vous, les juifs orthodoxes, vous avez attendu aussi longtemps, mais maintenant je suis là. Mais Jésus-Christ, il y a 2000 ans, oubliez ça. C'est l'antichrist, vous voyez. Mais il y a une deuxième signification, parce que anti en grec veut aussi dire à la place de. Donc c'est celui qui se met à la place du Christ. Christ est grec pour Messie en hébreu. En hébreu, là on ne dit pas antichrist, on dit neged Mashiach, celui qui est contre le Messie. Mais il faut là expliquer. C'est aussi celui qui se met à la place du Messie. Eh bien, juste après l'enlèvement, voilà le premier sceau, l'antichrist arrive. Ensuite, un cheval avec quelqu'un dessus qui porte une grande épée et ce qui mène à une effusion terrible de sang. Une énorme déstabilisation va tomber particulièrement sur l'Europe. Parce que nous allons voir dans l'Apocalypse, le focus est spécialement mis sur l'Empire romain. C'est l'Empire européen, n'est-ce pas, qui, et nous allons voir, comme le texte explique, l'Empire romain à trois phases était, n'est pas et revient. Donc la nouvelle Europe qui se réunit, c'est en fait l'Empire romain des derniers jours qui revient, mais qui va passer par des problèmes terribles de sécurité, de déstabilisation. Et maintenant, vous pouvez deviner vous-même comment on peut s'attendre à une catastrophe d'effusion de sang en Europe. Troisième Cheval, voilà, c'est quelqu'un qui apporte symboliquement la famille. Et le texte explique un litre de froment coûte un denier. Un denier, document, était le salaire d'un ouvrier pour un jour. Alors, si aujourd'hui, prenons un kilo. Un kilo de froment à la Ligro, ça fait un franc, n'est-ce pas? Alors, si on gagne comme ouvrier un franc par jour, ça fait mal. Ça fait mal. Alors là, les gens vont se dire, nous avons besoin d'un homme fort. Et là, la bête qui sort de la mer, Apocalypse 13. C'est un dictateur qui va s'élever sur le monde occidental et particulièrement sur l'Europe. Et cela est préparé par les premiers sceaux. Et le quatrième sceau, c'est la mort qui est assis dessus. Et voilà la quatrième partie. Donc, le quart de l'humanité est tué. Aujourd'hui, ça ferait 2 milliards. C'est le jugement des premiers 4 sceaux. Ensuite, toujours au chapitre 6, nous avons sceaux 5 et 6. Au cinquième sceau, Jean voit les âmes des martyrs à la pied de l'autel des holocaustes au ciel. Alors, cela nous explique les croyants vont passer par ce temps des jugements et beaucoup vont perdre la vie. Mais, ils sont sauvés. Leur âme va à la maison du Père. Parce que là, on est au temple céleste, entendu? Et le temple à Jérusalem est appelé en Jean 2, la maison de mon Père. En Jean 14, le Seigneur, avant de repartir à la gloire, il dit, à la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je vais vous préparer. Donc là, il parle du ciel, du temple céleste. Et voilà, les martyrs, là, les âmes, sont là au temple céleste. Et ce qui est intéressant, ils sont conscients. Il prie. Il demande la justice de Dieu. Donc, ils sont conscients. Cela explique lorsque, même aujourd'hui ou dans le passé, lorsqu'un croyant meurt, bien sûr, son corps meurt, mais l'âme va directement au ciel, à la maison du Père. Et est complètement conscient. Et cela, nous apprenons aussi par ce texte. Et ensuite, le sixième sceau amène une catastrophe de météores qui tombe sur la Terre. N'est-ce pas? On a toujours peur d'une telle catastrophe que des grands météores tombent sur la Terre. Et voilà, ça va arriver avec le sixième sceau. Et un tremblement de terre terrible qui déstabilise tout. Et là, les gens réalisent, maintenant, c'est le moment du grand jugement, de la grande tribulation qui est devant la porte. Et le texte dit, pendant ce sixième sceau, il y aura aussi un chaos et un ébranlement dans l'univers, donc même cosmique, un jugement cosmique. Et vous voyez, ça fait à peu près comme ça, si des petits météores vont tomber sur les villes, et si des grandes tombent, c'est comme des bombes atomiques. Ensuite, Apocalypse 7, mais c'est le moment pour la pause.